Bonjour tout le monde. Merci beaucoup d'être à l'écoute de cette émission. Nous allons parler avec Sylvie Bernier en deuxième heure d'émission tout à l'heure. La plongeuse olympique, vous vous en souvenez, médaille d'or, la première médaille québécoise à des Jeux. C'était il y a 35 ans. Mais son parcours olympique a été ombragé par un accident assez dramatique qui est arrivé dans la famille de Sylvie, où elle nous le raconte, elle le raconte dans le cadre d'un documentaire et surtout d'un livre intitulé « Le jour où je n'ai pas pu plonger » et nous la recevrons tout à l'heure. Je sais que vous serez sans doute plusieurs à vouloir lui dire un petit mot. Je reçois également le comédien Rémi-Pierre Paquin qui va nous rendre visite en deuxième heure d'émission. Mais en première heure, je voulais qu'on parle d'un phénomène qui est assez important et qui a fait les manchettes il y a quelques mois. Puis là, vous savez comment ça marche, hein? Le temps passe puis on oublie un peu les choses. On oublie entre autres qu'au Québec, on a de plus en plus un problème, on peut carrément parler d'une crise ici, en ce qui concerne les centres qui viennent en aide aux toxicomanes. Puis vous savez qu'on en parle beaucoup à cette émission, c'est un enjeu pour moi, c'est un sujet d'inquiétude, beaucoup aussi relié aux jeunes et aux gens aussi qui ont des problèmes dans la vie. On n'est personne à l'abri de ça. Il peut vous arriver n'importe quoi qui fait qu'un jour, ben vous sombrez dans un état où vous vous tournez vers, ça peut être des médicaments là aussi, on parlait de ça hier, les mots qu'on a, là, les mots d'eau, les mots, toutes sortes de mots qui nous font mal, la douleur, on le sait, on se l'est dit plusieurs fois, les médecins vont être beaucoup plus enclins aujourd'hui à vous donner des antidouleurs qui, si vous en prenez trop, peuvent vous amener à une situation de toxicomanie. Il y a ça, il y a l'alcool, on boit, tu sais, c'est social en même temps, alcool, médicaments, drogue, tout ça, ça fait un cocktail qui peut être assez dangereux, qui peut être assez néfaste pour la santé et qui peut vous amener à être dans le besoin de consulter des gens. Le problème, c'est qu'au Québec, on en parle, mais on fait peu encore. Il y a quelques temps, j'avais reçu le propriétaire du centre de thérapie Sentier du Nouveau Jour avec sa directrice générale qui me disait à quel point cette crise était vivante. Et je voulais prendre de leurs nouvelles aujourd'hui. Puis finalement, quand on regarde ça, Renato Badalone, merci d'être là.
Merci.
Louise Desrochers, merci d'être venue nous voir ce matin. Quand on regarde votre affaire, votre situation, Renato, ça ne s'améliore pas du tout, là.
Ça n'a pas changé, ça n'a pas changé. Les centres sont toujours pleins. On manque encore d'aide. On n'a pas encore les fonds qu'il fallait pour... Mais le nouveau gouvernement a l'air d'être plus ouvert à écouter, à entendre. D'ailleurs, on invite la ministre McCann à nous rencontrer pour voir les situations dans lesquelles vraiment on est. Parce que l'ignorance, je crois que ça reste encore le point, là, ils ignorent vraiment la situation dans laquelle on est et qu'est-ce qu'on fait comme travail et l'impact que ça fait socialement dans tout le côté carcéral, côté hôpitaux, côté même de tous les jours. Là. Si vous regardez les nouvelles, quand il y a un crime qui est commis, 95% des fois, c'est dû à la toxicomanie ou l'alcool.
C'est ça, hein? Oui. Ouais. On va en parler de ça. Louise Desrochers, oui. D'ailleurs, vous faites une levée de fonds le 8 mai pour essayer de trouver un peu d'argent, oui. Pour faire en sorte de contribuer. Parce que là, vous recevez à peu près l'équivalent de 60 $ par jour, oui. À votre centre. Alors que, par exemple, si ces gens-là étaient à l'hôpital, en prison, ils coûteraient pas mal plus cher que ça, là, facilement, oui. Le double. Donc, absolument. Vous vous dites, on voudrait un petit supplément, ça nous prendrait au moins un 30% de plus, genre 90 $ par jour, parce que vous les nourrissez, vous les logez, vous vous occupez de leur thérapie, vous faites tout là, pour ces gens-là qui sont là au moins chez vous pendant 6 mois. Là.
Oui. On a demandé à Mme McCann de nous rencontrer. Justement, on attend la confirmation de rendez-vous. Parce que
elle est bien occupée avec les infirmières.
Oui.
Là.
On le sait. Mais ce qu'on veut, en fait, c'est aussi qu'elle se penche sur le dossier du PSOC. Je ne sais pas, la dernière fois, vous en avez parlé un peu. Le PSOC, c'est un programme d'aide, de soutien aux organismes communautaires. Puis, on veut qu'il y ait une justice à ce niveau-là. Parce qu'actuellement, il y a certaines maisons de thérapie, certains centres qui reçoivent un montant substantiel. On parle de des fois 400 000 $ pour leurs ressources parce qu'ils sont dans des régions où ils acceptent les centres comme le nôtre. Mais dans notre centre à nous,
dans les Laurentides,
ils n'acceptent pas.
Pourquoi?
Donc, c'est
injuste. Pourquoi pas dans les Laurentides?
Ils disent parce que nous, c'est le Centre intégré des services sociaux qui nous donne des règles à suivre. Donc, on n'est pas comme autonome, si on veut. Mais par contre, les autres maisons de thérapie qui ont droit ont les mêmes règles. Donc, c'est injuste. Il y a quelque chose qui doit être visé là-dedans.
Ça sonne la bureaucratie un peu.
Ça sent ça, exactement. Puis depuis plusieurs années, avec les anciens gouvernements, je ne veux pas faire de politique ici, mais avec les anciens gouvernements, on a dit, bon, on ne peut pas toucher à ça. Mais avec le gouvernement actuel...
Vous avez de l'espoir.
On a de l'espoir.
Bon. Avec nous, Jessica Turmel, qui est coordinatrice, formatrice et responsable des communications pour le GRIP. Qu'est-ce que le GRIP? C'est le groupe de recherche et d'intervention psychosociale. Elle est spécialisée en prévention des toxicomanies. Merci, Jessica, d'être là. Quand on entend donc des gens qui s'occupent de centres de thérapie comme ça, on a envie de dire, bon, il y a des centres, donc on s'en occupe des toxicomanes. En même temps, quand on regarde les difficultés financières que ces centres-là ont, on se dit, est-ce qu'on en fait vraiment assez pour les gens qui ont des problèmes de toxicomanie au Québec?
Donc, je ne suis pas surprise d'entendre, en fait, ce que j'entends ce matin. C'est un peu l'écho qu'on reçoit de plusieurs milieux, beaucoup de milieux communautaires qui peinent à se sortir là, de la précarité au niveau financier. Le PSOC, qui est le programme de soutien aux organismes qui devrait financer les missions de base, souvent ne nous permet pas du tout là, de survivre et nous place dans une situation où on doit constamment chercher de l'argent plutôt que de s'attarder à répondre aux besoins des gens, en fait. Et si les milieux sont là, si les ressources existent, c'est parce que le besoin est criant. C'est un filet social extrêmement important. Donc, c'est important qu'on reconnaisse la valeur, en fait, de ces centres-là et de toutes les...
Bien, surtout qu'on parlait de crise tout à l'heure, oui. Puis du fait qu'il y a des chiffres qui sont sortis là, ces jours-ci. Là. Il y a 4 jours, il y avait un nouveau rapport de Santé Canada qui disait que les opioïdes qui avaient été saisis par les autorités étaient encore beaucoup plus puissants que ce qu'on a pu voir dans le passé. Donc, on parle de la crise des opioïdes depuis déjà quelques mois. On sait qu'il y a du fentanyl. Que, d'ailleurs, dans ces opioïdes-là, il y en avait 70% qui contenaient du fentanyl. C'est énorme, là. Puis, est-ce qu'on fait quelque chose là-dessus, Jessica?
Oui, donc c'est un grand...
Que du monde inquiet à part nous, là?
En fait, la consommation existe depuis toujours, mais ces dernières années, on constate un gros problème au niveau de la qualité des produits, puis un problème de santé publique qui est majeur. Là, on parle d'une crise où les gens meurent, en fait.
Oui.
On parle d'une question de vie ou de mort. Donc, c'est très important d'investir. On sait que le gouvernement est ouvert à ce qu'il y ait des innovations qui soient réalisées. Le GRIP est en train de travailler en ce moment sur un projet d'analyse de substances pour protéger la vie des personnes qui sont consommatrices, mais reste que les besoins financiers sont présents et les besoins de se dépêcher, si on veut, de la lourdeur de la bureaucratie, parfois, fait que ça prend du temps avant de se sentir soutenu.
Louise, qu'est-ce qu'on fait par rapport à vous? Vous en recevez des gens qui ont eu des problèmes avec le fentanyl, les opioïdes en général.
Régulièrement. Surtout récemment, là, on se rend compte de plus en plus, les gens nous disent, bon, ben il y avait des... Ben, puis on l'identifie aussi. Maintenant, nous, on travaille avec Dr. Robert. Je ne sais pas si vous connaissez la clinique Sida Amitié. Maintenant, ils sont en mesure de pouvoir vérifier s'il y a du fentanyl dans la drogue. Mm-hmm. Donc, oui, on a souvent des problèmes à ce niveau-là.
Bien, justement, il y a 4 jours, ce qu'on a annoncé, là, entre autres, c'est que dans les échantillons qui avaient été... les échantillons d'héroïne qui avaient été saisis, il y avait près de 70 % de ces échantillons-là qui contenaient du fentanyl. Puis il paraît que fentanyl et héroïne, c'est pas une bonne idée de mélanger ça, ça a l'air.
Ben, c'est parce que ça l'amplifie de 10, 15, 20 fois la drogue elle-même. Puis ils pensent, eux autres, prendre la même quantité qu'ils s'injectent ou qu'ils prennent, mais ça fait les overdoses, puis ça crée la mort.
D'où l'augmentation des overdoses. Hein? Oui. On voit ça, des gens qui meurent par surdose. Il y a plus de cas aujourd'hui. Qu'est-ce qu'on peut faire à part, évidemment, bon, il y a les questions du financement. Vous dites que ça nous prend plus de financement, mais en même temps, est-ce que vous pensez qu'on peut venir à bout de ce qui se passe en ce moment? Il me semble que ça...
Bien, c'est sûr que pour quelqu'un qui a la problématique de toxicomanie déjà... Oui. Ben c'est pas eux qui vont choisir leur drogue, hein. On le sait que quand ils sont en manque ou en quelque chose, ils vont prendre qu'est-ce qu'il y a là. Des fois, ils sont pas au courant de qu'est-ce qu'il y a dedans directement, mais ils doivent juste consommer. Alors, nous autres, notre travail à nous, c'est d'informer la personne qui veut s'en sortir, puis que cette personne-là lui donne toutes les ressources qu'il faut pour qu'elle aille ne plus avoir envie de retourner. Mais pour ça, il faut les encadrer, puis ça se fait pas en 3 semaines, puis ça se fait pas en 2 semaines. Il y a un gros travail à faire, puis c'est là où que ça nous manque, on manque de fonds pour vraiment aller travailler. Puis on a la même problématique que dans beaucoup de réseaux. Les intervenants sont fatigués, sont essoufflés. L'hiver est long pour tout le monde.
On a Jean-Claude qui nous appelle. Merci de le faire, d'ailleurs. Ça me permet de donner nos numéros tout de suite pour les gens qui voudraient, bien sûr, se joindre à notre discussion. 514-790-9850 et partout sans frais à l'extérieur de Montréal, vous faites le 1-866-790-9850. Bonjour, Jean-Claude.
Bonjour, Marie, hein?
Isabelle, c'est correct. Ouais. Isabelle, Jessica, Louise et Renato avec vous, Jean-Claude.
Bon, ben bonjour toute la gang.
Bonjour.
Moi, ça fait 32 ans que j'ai arrêté de consommer.
Wow.
Ça va faire 32 ans.
Bravo.
J'avais 29 ans quand j'ai arrêté. Mais j'ai essayé d'arrêter à 19 ans.
Et vous, c'était quoi, Jean-Claude? C'était de la drogue de toutes sortes avec de l'alcool, je pense. Hein? C'était un mélange.
Ah oui, l'alcool, juste la drogue, là, des joints, de la coke, toutes sortes d'affaires.
Mm-hmm.
Même des speed. J'ai tout essayé. Ça.
Et ça a été difficile pour vous d'arrêter, Jean-Claude? Parce que ça fait longtemps. Là. Est-ce que le fait d'avoir été ex-toxicomane, c'est toujours un risque de rechute pour vous?
Pas du tout.
Non?
Pas du tout. Je fais des meetings, je vais au CA, NA, mais j'ai plus le goût de consommer par rapport que je fais du meeting, par rapport que je fais ce que j'ai à faire.
Mm-hmm. Et quand vous dites meeting, là, c'est justement les alcooliques anonymes, les cocaïnomanes anonymes. Mais la drogue d'aujourd'hui, Jean-Claude, évidemment, je vous conseille pas de l'essayer, mais par rapport à ce qu'il y avait il y a 30 ans,
Pas du tout pareil.
Pas pareil, hein?
Ah non, ça c'est sûr, c'est pas pareil. Ils mettent d'autres choses, puis c'est sûr que le monde sont plus pognés avec ça.
Oui, c'est sûr.
Ça c'est sûr.
Vous auriez un conseil, Jean-Claude, vous, pour les gens qui nous écoutent puis qui aimeraient faire comme vous, arrêter la consommation?
Moi, je pense que c'est d'aller dans un mouvement, dans les alcooliques anonymes ou des NA ou CA.
Mm-hmm.
Demander de l'aide aussi. Moi, j'avais été à Dorémy, c'est fermé aujourd'hui, à Pierrefonds. Je trouve ça de valeur parce que c'était une bonne thérapie. C'est ça qui m'a aidé, moi, à m'en sortir.
Mm.
Moi, j'étais un gars qui ne parlait pas avant. Aussi, j'ai fait une dépression. J'ai eu un cancer par rapport à ça à cause que je ne parlais pas de moi.
Ouais.
Je parlais des autres, mais je ne parlais pas de moi. C'est tout en ligne de compte, hein?
Oui, c'est tout relié. En tout cas, vous êtes bon, Jean-Claude, parce que là, vous parlez à la radio devant tout le monde. Là. Merci beaucoup d'avoir pris le temps de nous appeler. Merci bien. Je trouve ça intéressant, l'histoire de réussite. Il faut leur rendre hommage à ces gens-là qui ont réussi à passer par-dessus. Peut-être le mot est cliché, mais c'est un peu ça pareil, Renato. Hein? Les démons qui nous habitent parfois. Là.
Oui, on a créé des réflexes, nous autres, qui sont par rapport à des émotions. Puis tant que les émotions... Ils reviennent toujours dans des événements et tout ça. Le même réflexe est toujours là. Mais pour enlever ça, là, ça prend beaucoup de travail. Puis oui, comme parlait Jean-Claude, dans les mouvements anonymes, c'est un support incroyable suite à une thérapie, avoir fait un travail sur toi-même. Puis après, être en contact avec du monde qui veulent s'en sortir, faire un nouveau réseau. Puis essayer de recréer des nouveaux réflexes à des émotions qui vont revenir.
Oui, tout à fait. Puis vous pouvez en parler, vous pouvez témoigner de ça,
oui,
justement, Renato.
Oui.
Vous allez le faire d'ailleurs après la pause. Je vais vous poser des petites questions sur votre parcours, mais c'est parce que c'est important dans la donne. C'est pour ça que vous avez fait ce centre de thérapie Sentier du Nouveau Jour.
En fin de semaine, il y avait un congrès sur les cocaïnomanes anonymes qui était merveilleux. Il y avait tout ce monde de Montréal et de Toronto, de New York, qui viennent se rejoindre ensemble et puis qui parlent de rétablissement du monde qui vient d'en faire. Puis les témoignages qu'il y a là, c'est incroyable.
On revient tout de suite après la pause avec Renato Badalone, Louise Desrochers, Jessica Turmel, spécialiste justement de la prévention des toxicomanies. C'est sûr que l'idéal, c'est de prévenir, hein, Jessica?
Oui.
Mais évidemment, quand on est pris avec ça, qu'est-ce qu'on fait? Bien, on espère qu'il y aura des centres qui vont nous accueillir. C'est ce que fait le Centre de thérapie Sentier du Nouveau Jour. J'en profite pour vous dire que si vous voulez faire un don pour la levée de fonds du 8 mai, vous allez sur sentierdunouveaujour.ca. On revient avec vos commentaires. Nos lignes sont pleines. Je pense qu'il y a plein de gens qui veulent témoigner de ça ce matin. Tout le monde, d'un jour ou l'autre, peut-être vos proches, si c'est pas vous, vont être pris avec un problème de toxicomanie, ne serait-ce que l'alcool. L'alcool, le mélange de médicaments, puis ça y est, boum, c'en est un problème de toxicomanie si vous êtes dépendant de ça. 514-790-9850 1-866-790-9850 à tout de suite. On parle de toxicomanie ce matin. On se demande, est-ce qu'on en fait assez? La réponse, on la connaît, non. La réponse est non, on n'en fait pas assez. Il y a des problèmes de financement, il y a des problèmes d'accès aussi. Il y a des problèmes que sur le marché, la drogue est de plus en plus dure. Puis, tu sais, on a au bout de dire, que fait la police? Mais la police a des moyens limités aussi. On ne veut pas leur jeter la pierre non plus ce matin. Il y a comme un système qui regarde ça puis qui se dit bon, comment je vais l'attraper le problème? On a avec nous des gens là, qui veulent intervenir, comme Béatrice. Bonjour, Béatrice.
Oui, bonjour.
On vous écoute.
Ben moi, c'est ça. Pour faire quand même une histoire assez courte, les spins, c'est sûr que ça fait partie de ma réalité. C'est quasiment rendu un mode normal de vie, mettons, comme. Mais c'est pas... Ça, c'est dû vraiment à un suivi. Mon compagnon est décédé, au fond, de la SLA. Donc, c'est la sclérose latérale amyotrophique, et non la sclérose en plaques. Mm-hmm. C'est ça, c'est une maladie qui atteint plusieurs personnes. Ça atteint tout le haut de son corps. Donc,
Vous, ça vous a atteint profondément parce que vous avez vécu une dépression à la suite.
L'affaire, c'est que le monde ne sait pas comment agir dans ce sens-là quand ils vous voient en train de... j'ai dû perdre mon travail parce que lui était vraiment rendu, ça attaquait tout le haut, donc toutes les yeux fonctionnent, il est complètement lucide, mais il y a, les bras, ils marchent plus, ils ne fonctionnent plus. Donc, je vivais une année, une déception après une autre, mais sans savoir c'était quoi, parce que en 2011, on ne savait pas vraiment c'était quoi cette maladie-là.
Mm-hmm. Mais là, vous me parlez de sa maladie à lui, mais moi, c'est de la maladie à vous, votre maladie à vous. Je comprends le contexte, puis je comprends que vous avez été profondément...
J'étais inclus là-dedans parce que c'était moi qui vivais à travers lui 24 heures sur 24. Donc, quand il avait besoin de se moucher, il fallait que
je sois là. Je comprends.
C'est là que j'ai commencé à reconsommer.
Et vous aviez, Béatrice, accès à ces speeds-là. Comment vous avez commencé?
Très facilement. Très facilement. J'ai quand même une personne... je sais c'est quoi la composante, vraiment...
Mais vous alliez sur la rue ou comment vous faisiez pour vous en procurer, non?
C'est très, très accessible, sans dire quoi que ce soit, mais c'est dans mon milieu à moi, un peu...
OK, parce que moi, je vous avoue, ce matin, je voudrais prendre du speed, je sais pas où aller, là. Peut-être que je peux demander à Jessica, par exemple, si elle connaît quelqu'un, mais sincèrement, alors, vous, Béatrice, vous dites vous avez eu accès facilement à ça, comment?
Ah, mon Dieu, par une personne très près de moi, là. Okay. Je peux pas dire quoi que ce soit, mais un bémol, ça serait que les écoles, les sixième année secondaire, se font couramment solliciter des speeds ou quoi que ce soit, et puis c'est très, très, très évident, et c'est simplement que c'est comme les parents ne savent pas comment agir, ou ils veulent baisser les yeux souvent ce problème-là, parce que les jeunes aujourd'hui peuvent boire du Red Bull. Est-ce que je suis vraiment c'est atroce, cette affaire-là.
Ouais.
Mais sauf que, tu sais, ils boivent du Red Bull, ces choses-là, mais c'est pas bon pour leur santé, et puis c'est comme les petits vendeurs, là. J'avais ça des vendeurs à patates, là. Ils sont tellement weirdo que sont tellement faciles
à... Convaincants.
Mais oui, c'est sûr, quand tu donnes ça à un speed, là, c'est pas trop long, donc si c'est mélangé avec d'autres choses, le jeune, dès la première consomme, il est alerte, il est happy, il se pense Superman, lui, là, il est comme wouhou. Mais souvent, c'est mélangé avec des plus qu'on met d'autres cochonneries. Alors, c'est un peu... c'est vraiment plate.
Et vous, Béatrice, quel âge avez-vous?
42.
Ah oui, mon Dieu, vous avez une voix toute jeune. Mm-hmm. J'étais sûre que vous aviez 22.
excuse-moi, ma fille elle a 20 ans, fait que c'est déjà... c'est sûr que...
Vous avez une jeune de 20 ans. Fait que comment ça fait quand on est la mère d'une jeune adolescente, un jeune adulte, puis qu'on a un problème de toxicomanie? J'imagine que ça doit vous y penser à ça. Vous dites, mon Dieu, est-ce qu'elle vous voit votre fille? Est-ce que...
Non.
Est-ce qu'elle sait que sa mère est toxicomane?
Oui. Elle savait que quand j'étais avec son papa, on consommait, son père et moi, en 2000, 2001. En 2000... comment ça, de 2000 à 2016 avec mon conjoint, il s'est marié.
Ouais.
Et j'ai demandé le divorce après ça parce que on avait un problème de cocaïne à ce moment-là.
OK, la drogue a toujours été au centre de votre vie. Est-ce que vous nous appelez aussi un peu ce matin, Béatrice, parce que dans le fond, vous aimeriez peut-être avoir une thérapie pour vous sortir de là?
Ben, une thérapie, ça serait vraiment, tu sais, comme la cocaïne, moi, j'ai arrêté ça du jour au lendemain parce que, puis pourtant, j'étais vraiment, là, c'était 400$ par jour là, que je consommais.
Oui,
donc,
oui.
C'était tant. Puis, il a juste fallu une année, un déclic qui fait que la dose, tu sais, le high du premier jour, mm-hmm. la première fois, n'est plus.
Tu l'as plus après, ben non.
Mm-hmm. Non, non, là, c'est rendu, c'est le plus bien. Là, c'est soit la corde, ou soit que tu appelles une personne puis ça s'arrête. Mais c'est ce qui a été pour moi un élément déclencheur.
Wow, c'était soit on s'enlève la vie, soit on s'en sort.
Ah oui, j'étais à bout de tout ça parce que je me suis dit, hey, là, non, non, non. Moi, je suis capable. C'est parce que la vie, il y a un complexe B12, c'est multivitamine, et ils ont fait les tests en laboratoire sur une personne toxicomane, mais vraiment sur l'héroïne. Le sevrage était doublement facile de lâcher la cocaïne et même l'héroïne avec une propre vitamine B12.
Vous avez pris de l'héroïne aussi, Béatrice?
Non. Okay. Moi, c'est la cocaïne.
Mais là, est-ce que vous souhaiteriez suivre une thérapie?
Pour l'esprit, non, parce que je suis capable d'arrêter, je suis capable de prendre un break de temps en temps parce que maintenant, là, je suis consciente vraiment de tout ce que ça fait. Mais sauf que...
Avez-vous essayé déjà d'arrêter les spins?
Ah ben oui. Oh oui, mais la peur, c'est de dormir longtemps parce que c'est sûr que les neurotransmetteurs, eux autres, eux, quand ils voient l'amphétamine est là, ben les neurotransmetteurs, automatiquement, ils prennent un break.
Fait que dans le fond, vous dites, moi, je suis capable de m'en sortir toute seule, mais on comprend que c'est pas si facile.
Je peux dormir pendant peut-être une semaine, deux semaines, avoir un rush de cappuccino glacé extrême et d'avoir la peur d'engraisser pas mal parce que j'ai, dans l'espace de, mon Dieu, un hiver, j'avais lâché et puis c'était parce que je l'ai prouvé que j'étais capable. Fait que
ça a été difficile.
J'étais dans la toilette, j'ai arrêté. Puis j'ai bu du cappuccino glacé extrême, les grands. J'ai triplé mon poids, donc je pesais 90 livres. Et à la fin de l'hiver, j'embarquais dans mes rollers puis je pesais 190 livres.
Wow. Béatrice, il y aurait une émission juste à faire avec vous.
Ah, moi, c'est comme vous venez de donner à votre recherchiste. Je suis une bible, comme on me dit, parce que quand je suis allée dans les hôpitaux pour mon copain, pour la SLA, c'est sûr que on m'a souvent écouté, puis demandé, puis je veux pas, hein, le monde, il t'écoute, puis d'une oreille un peu loin, mais...
Mais en même temps, vous nous dites plein de choses et j'ai envie qu'après la pause, parce qu'on doit se laisser ici, merci beaucoup Béatrice d'avoir pris le temps de nous parler puis de vous être ouverte comme ça. J'aimerais avoir les commentaires de mes invités sur votre témoignage. On va s'arrêter ici. Donc, bonne chance Béatrice. Merci beaucoup. Restez à l'écoute toutefois parce qu'on va prendre vos coordonnées. On revient tout de suite avec les commentaires donc de mes invités, Renato Balalone, Louise Desrochers du Centre de thérapie Sentier du Nouveau Jour, Jessica Turmel, spécialiste en toxicomanie, vont nous dire ce que pourrait peut-être faire Béatrice, parce que son histoire touche beaucoup de monde au Québec. Puis on prend vos autres commentaires au 514-790-9850. J'aimerais entendre Renato Badalone et Louise Desrochers, qui sont propriétaires et directrices générales du Centre de thérapie Sentier du Nouveau Jour, par rapport au témoignage de Béatrice. Jessica Turmel également, coordonnatrice et responsable pour le GRIP, qui fait de l'intervention psychosociale, justement, auprès des toxicomanes, entre autres. Renato, vous-même, ex,
oui.
On peut le dire, ex-toxicomane, on disait tout à l'heure que c'est pour ça un peu que vous avez voulu ouvrir ce centre. Quand vous entendez Béatrice, qui avait toute une problème, c'est comme toute sa vie là, qu'elle nous a expliqué.
Ben oui, parce que c'est très dur si on ne fait pas un travail interne avec une thérapie de longue durée pour aller travailler à l'intérieur. Ben, quand on arrête quelque chose, on transfère sur autre chose. Alors, elle l'a dit facilement, là, elle arrête les speed, elle a été outre-mangée. Arrêter ça, il faut travailler une autre chose. C'est pour ça qu'on fait la levée de fonds. Nous autres, c'est pour construire un gymnase, justement, parce qu'il faut les...
Il faut les faire bouger, ce monde-là, parce qu'on sait que l'activité physique, c'est bon.
Ils ont beau avoir trois ateliers par jour, faire la méditation le matin, faire autre chose. Il faut qu'ils ils doivent bouger puis faire autre chose, sinon ils vont transférer ça jusqu'à temps qu'ils fassent le travail. Alors, c'est sûr que c'est pas facile de lâcher une drogue spécialement qui est facile à avoir. Avec
comme vraiment. Les c'est quoi des spines, en fait?
Toutes les drogues de synthèse peuvent être rencontrées là-dedans, là, à peu près, là, toutes les
amphétamines. Tout ce qui est chimique. Puis
oui, mais qui donne un pouvoir.
Un
là,
stimulant.
Ça stimule. Mais il y a un
puis
gros
c'est facile
dame.
À trouver, ça? C'est juste moi qui ne sais pas où en acheter.
Oui, en fait, c'est un peu la problématique qu'on retrouve, c'est que les drogues sont excessivement accessibles. Qu'on parle de drogues, les speeds, en fait, sont largement consommés même dans le milieu scolaire, chez les jeunes secondaires 1 à 5. C'est des substances qui sont populaires, qui coûtent vraiment pas cher. Donc,
secondaire 1.
2 $, 5 $. On en retrouve plus vers les secondaires 4-5 et nos 18-24 ans qui sont des grands consommateurs. Et le constat qu'on fait, en fait, même au niveau mondial, c'est qu'on n'arrive pas à enrayer l'existence de ces drogues-là, l'accessibilité à ces drogues-là. Qu'on parle de médicaments qui sont détournés, surprescrits, qui sont très faciles à obtenir, ou de drogues illégales fabriquées synthétiquement dans des laboratoires, ça circule énormément. Donc, c'est un peu le constat qu'on fait au niveau... qu'il faut adopter une approche de santé publique, puis... cesser réellement là, d'investir de l'argent dans le volet criminel judiciaire, de criminaliser des gens qui ont des
problèmes. Qui ont besoin d'aide.
Exactement. C'est un problème de santé publique.
Ouais.
C'est un problème psychosocial on devrait en fait aborder des approches vraiment préventives, investir de l'argent dans le traitement, dans la prévention, aller chercher les facteurs de risque qui nous emmènent à développer des problèmes plutôt que de s'attaquer seulement à enrayer les produits qui, eux, sont toujours disponibles et la qualité devient de pire en pire parce que les gens jouent au jeu du chat et de la souris parce que ce n'est pas du tout contrôlé. N'importe qui fabrique n'importe quoi et vend n'importe quoi sur le marché présentement.
Oui, mais tu vois, en même temps, je t'écoute puis je me dis, avec l'exemple qu'on a là, de la marijuana, là, où on a espéré qu'en légalisant, on ait de la meilleure qualité puis que ça enraye le marché noir... Ce qu'on voit en ce moment, c'est que c'est pas ça.
Oui,
ça fait juste faire en sorte que les pocheurs habituels, comme ils disent les Anglais, they're laughing all the way to the bank, ils continuent as usual. Puis de toute façon, on a fait des tests de qualité de la Société de cannabis du Québec, puis on se rend compte que n'importe quel consommateur moyen va te dire que c'est de la qualité assez médiocre. Fait que finalement, même si c'était légalisé, mettons qu'on légalise les drogues en général.
On en parle de plus en plus, oui.
Oui, il y a cette approche-là, justement. Oui. Est-ce que ça réglerait vraiment le problème? Je sais pas, Louise.
Il y a beaucoup d'enjeux. Pour ce qui est de la légalisation du cannabis, on a beaucoup à apprendre, en fait. Présentement, on voit pas là, les avantages.
Non, c'est ça.
Quand on parle de légaliser, en fait, c'est que le constat est que la prohibition, présentement, entraîne énormément plus de méfaits que ce que ferait une légalisation, c'est-à-dire de contrôler les produits, gérer l'âge, mais beaucoup un contrôle de qualité et de cesser de stigmatiser, de criminaliser les gens. Donc,
mais tu vois, la légalisation du pot a-t-elle amené une meilleure qualité sur le marché noir, mettons?
Jusqu'à maintenant, dans les conditions actuelles où on a des pénuries là, dans les SQDC, tout ça, présentement, on ne voit pas les avantages.
Tu vois?
Mais légaliser, il faut bien le faire. Ça prend une légalisation réglementée. Donc, on a des choses à apprendre aussi de l'expérience d'autres États, d'autres pays. Donc, légaliser peut vouloir dire beaucoup de choses, en fait.
C'est ça.
C'est tout un continuum. Donc, oui, il y a des risques de banalisation et tout, mais on peut obtenir des résultats vraiment excellents. On sait bien le faire et certainement mieux que la prohibition en ce moment. En fait.
Ouais, on a Christopher avec nous. Bonjour Christopher.
Oui, bonjour Isabelle. Ça va bien?
Oui, ça va très bien. On vous écoute.
Oui, en fait, moi, je vous appelle aujourd'hui. J'ai eu des gros problèmes de consommation de mon côté aussi, l'alcool et la cocaïne. J'ai été en thérapie, j'ai fait thérapie carcérale. Ça m'a emmené jusqu'à la détention à multiples reprises, je vous dirais. Aujourd'hui, je m'en suis sorti, ça va faire un an et demi, le 10 décembre, que je consomme plus du tout, alcool, aucune drogue, rien. moi, ce que je veux dire, c'est que oui, les thérapies, c'est très, très bien, sauf que si tu n'as pas la volonté d'arrêter, ça sera pas possible de t'en sortir. T'as beau dire je t'abouche, mais ça prend vraiment, vraiment, vraiment une volonté. Faut que tu y crois. Faut que ça prend plus qu'un séjour, je dirais. Parce que la vraie thérapie, tant qu'à moi, elle commence quand tu es à l'extérieur. C'est là qu'il faut que tu tasses ton monde. C'est les fréquentations, surtout autour de toi. Souvent, ça part de l'école, ça part du secondaire avec qui tu te tiens.
C'est ça.
C'est vraiment...
Faut être fait fort, hein, Christopher, pour être capable de trouver cette volonté nécessaire que vous décrivez. Là.
Ah, écoute, c'est pas facile. J'ai essayé à multiples reprises jusqu'à ce qu'à un moment donné, je réalise à quel point que je suis en train de scraper ma vie. Là. Moi, je viens d'une bonne famille, puis ce qui est arrivé, c'est que... Tu sais, quand tu te ramasses en détention puis tu te rappelles même pas pourquoi tu es là, tu as fait un blackout, tu as trop consommé de cocaïne, tu as trop bu, tu trouves plus ton véhicule, là tu sais que tu as commis un ton sort, il est tout poqué, puis tu sais pas qu'est-ce qui s'est passé avec. C'est rendu grave là, à un moment donné, là, c'est pas une vie ça là.
Avez-vous frappé quelqu'un avec votre véhicule?
Par chance, j'ai pas frappé personne, mais je me suis souvent scrappé la vie, je me suis souvent mis dans des mauvaises situations, puis je suis tellement chanceux parce que quand que j'en vois aujourd'hui que y a un chauffeur qui a tué quelqu'un.
Ouais. Vous pensez à vous, Christopher.
J'avais le bon Dieu de mon côté, là, parce que moi, quand je consommais, je me foutais de tout, là, carrément de tout. Là. Ça n'est pas de m'empêcher de conduire. Là. Ça va être impossible.
C'est sûr. Christopher, restez au téléphone. Merci d'avoir pris la peine de nous appeler. On a Justin avec nous. Bonjour, Justin.
Bonjour.
On vous écoute?
Moi, j'ai 25 ans, puis j'ai commencé à consommer à l'âge de 8 ans environ. Mm-hmm. Ça a l'air niaiseux, mais moi, ma première drogue dans la vie, ça a été les jeux vidéo. Mm-hmm. Ça a été de... Puis ça, c'est donné dans les mains de tous les enfants à cette heure. Écoutez, ça a parti de problèmes familiaux. Puis même si j'étais dans une super bonne famille, moi... L'histoire, c'est que mon père, au lieu de récompenser les enfants, ben moi, ça marchait par la punition. Puis, tu sais, si je peux faire un message aux parents qui veulent aider leurs enfants, essayez pas de les punir, essayez de leur faire voir le bon côté des choses à la place. Mmh. Puis, je vous dirais que dans mon adolescence, j'ai commencé à avoir des mauvaises fréquentations, puis justement, le sentiment de vouloir m'éloigner de la vraie vie, mais ça m'a amené beaucoup à consommer puis à me sentir coupable. Puis je vous dirais qu'à un moment donné, j'ai été en thérapie à 18 ans. Je le regrette pas du tout, même si j'ai rechuté par la suite, parce que cette thérapie-là, elle m'a appris des outils extraordinaires. Elle m'a appris à parler, à m'ouvrir, à... C'est ça qu'il faut faire dans la vie. Il faut être capable de voir c'est quoi nos difficultés. Puis si on en parle, on va être capable de régler tous ces problèmes-là. Fait que je pense que s'il y a des gens qui m'écoutent en ce moment et qui sont là-dedans, ben ça prend un gros coup. Puis après ça, il faut travailler sur ça. Il faut pas lâcher, il faut en parler. Puis on se rend compte qu'il y a tellement de gens autour de nous qui sont prêts à nous aider.
C'est vrai.
Mais quand on reste dans cette sphère-là, il n'y a personne qui va nous aider. Faut y aller par nous-mêmes demander de l'aide. Puis c'est ça le plus dur, mais une fois que c'est fait, c'est là que tu commences à t'aider pour de vrai, puis à changer, pour vrai, je suis tellement fier de moi, c'est vraiment...
Vous pouvez, Justin, franchement, vous pouvez. Bravo, bravo. Merci de prendre la peine de nous parler de vous. Je sais que c'est extrêmement chargé d'émotions. On vous serre dans nos bras. Merci beaucoup, Justin. Merci bien. On va s'arrêter ici. C'est des témoignages forts qu'on reçoit ce matin. Là. Ça démontre beaucoup d'ouverture de votre part, chers amis et auditeurs. On revient tout de suite après ceci. Nos lignes sont pleines. On pourrait faire 2 heures là-dessus, comme souvent. Il nous reste quelques minutes toutefois. À tout de suite. Serge est avec nous. Bonjour Serge. Je pense que vous êtes toxicomane. Vous consommez en ce moment?
Oui, je consomme encore, mais moi, Isabelle, c'est important de te dire que j'appelle pour remercier puis féliciter Renato, parce que c'est un ami d'enfance, j'ai été école avec, puis le travail que tu fais là-bas, là, ça vaut vraiment la peine. J'ai des amis qui ont été en thérapie là-bas. Moi, j'en ai fait une thérapie, c'est ça qui m'a sauvé la vie. Aujourd'hui, je consomme encore du cannabis, puis je prends une bière, mais c'est pas ça la question. Je pense que si on regarde tout l'argent qui est investi pour le criminel, la cour, le palais de justice, tout l'argent qu'ils peuvent mettre là-dedans dans les prisons, tu le quittes, là. Mais c'est tous des gens qui sont là à cause de la consommation.
Mais Serge, vous dites, parce qu'on m'a dit Serge se présente comme un toxicomane, en même temps, vous me dites, je prends du cannabis, de la bière, mais est-ce que vous le consommez? C'est-à-dire, est-ce que vous le contrôlez? Est-ce que c'est vraiment en hobby, presque, ou c'est une toxicomanie?
Moi, c'est depuis que j'ai eu un diagnostic pour une maladie au cerveau, c'est pour ça que je consomme encore aujourd'hui.
Okay. Mais c'est contrôlé? Vous le contrôlez bien? Ou?
Oui. Oui.
Parce qu'on peut-tu contrôler bien une consommation de drogue? Merci, Serge, de votre appel. J'ai envie de demander à Jessica, est-ce que c'est possible? Est-ce que la toxicomanie intervient seulement quand on n'est plus capable, quand ça devient un problème? Là, on parle de toxicomanie, ou le fait de prendre un joint de temps en temps avec une bière régulièrement, ça fait tout un toxicomane?
C'est une question importante, hein, parce que les substances psychoactives sont partout. On en consomme régulièrement, c'est-à-dire le café, c'est-à-dire les boissons énergisantes, l'alcool. Faut admettre que toute drogue confondue, en fait, les gens ne développent pas tous des problèmes de dépendance.
C'est ça.
La majorité des gens sont consommateurs récréatifs, vont explorer certaines substances et il ne faut pas l'oublier, en fait.
Ouais.
Le GRIP fait beaucoup de prévention avec ces gens-là aussi qui sont des consommateurs de milieux festifs, dans les événements. Donc, quand
mais
on parle de dépendance,
voilà, c'est ça.
Dépendance, on parle de critères qui sont identifiables. On parle d'enjeux qui causent une détresse pour la personne, qui nuisent au fonctionnement. Donc, d'une perte de contrôle par rapport à la consommation de la substance. Et la personne, en fait, va voir les sphères de sa vie un peu se détériorer, là. Donc, c'est pas tout le monde qui répond à ces critères-là. On va tenter de prévenir, bien sûr, le développement de problématiques de dépendance. Ça fait partie de la prévention. La prévention, par contre, est plus large que ça. En fait, on peut prévenir différents risques reliés à la consommation, que ce soit des risques de faire une surdose, de tomber sur une mauvaise qualité de produit. En fait, on constate que les gens qui sont consommateurs récréatifs sont aussi des grands oubliés de tout ce qui est préventif. Parce
qu'ils peuvent être l'objet, eux aussi, là, devant. C'est ce qu'on disait tout à l'heure. On boucle un peu la boucle, là. Jessica, tu fais bien de le nommer. C'est qu'au début, on disait, attention, la drogue, là, disponible en ce moment, elle est pire, plus forte que celle d'avant. Puis des fois, c'est ce que Renato disait, les gens ne savent pas d'où surdose, d'où mort. Donc, il faut le dire même à ceux qui se pensent juste, ben bon, je ne suis pas toxicomane, je le contrôle, ma consommation, c'est juste pour le plaisir. Attention, tu peux te faire attraper, tu peux tomber sur du stock pas mal plus nocif avec du fentanyl.
On peut parler de toute la question des bad trips, de la gestion de l'expérience, les gens qui vivent des accidents de voiture, par exemple, parce qu'ils ont consommé de l'alcool une soirée, mais qui sont pas des gens dépendants à l'alcool, par exemple.
Renato, évidemment, on dit depuis tout à l'heure qu'on voulait se rappeler votre histoire parce que vous, ça fait longtemps, ça fait plus de 26 ans maintenant que vous avez complètement...
Que j'ai arrêté, oui, mais que j'ai pu continuer à arrêter parce que j'ai fait ce qu'il fallait aussi, parce que je me suis mis avec du monde qui avait arrêté de consommer.
Vous, c'était la cocaïne.
Moi, c'est surtout la cocaïne, mais on englobe tout en même temps.
Pendant...
On boit beaucoup, on prend toutes les drogues possibles. On a commencé jeune, j'ai commencé à l'école jeune. D'ailleurs, j'ai sûrement commencé avec Serge qui parlait avant. Nous autres, on est amis quand on dit d'enfance, c'est 12 ans, même plus que ça. On est allés à l'élémentaire ensemble. J'ai reconnu Serge.
C'est vrai.
Oui. Et puis, tu sais, après ça, on continue, puis on prend toutes les drogues ensemble. Bon, moi, ça m'a pris une couple de thérapie pour moi, dans mon cas à moi, pour arriver à vouloir, mais pas vouloir arrêter, être capable de comprendre qu'est-ce qu'il faut faire pour rester arrêté.
C'est ça.
Et puis, qu'est-ce que Serge disait de consommer juste un tout petit peu? Et je suis sûr qu'il, tu sais, c'est un choix, ça, à un moment donné. C'est quoi qu'on veut comme genre de vie et de qualité de vie? Puis où est-ce qu'on veut aller, hein, avec ça?
Je pense que les mots-clés, hein, Louis, c'est prévention et c'est prévention. Il faut vraiment faire en sorte que nos gouvernements puissent embarquer là-dedans parce qu'on le dit, mais là, il faut vraiment agir. On a hâte de voir si vous allez finir par la rencontrer, la ministre de la Santé.
On espère.
ça va changer quelque chose. En tout cas, on va espérer. Un don à la fondation sentierdunouveaujour.ca pour contribuer à leur levée de fonds du 8 mai. Merci à tous les trois.
Merci beaucoup.
Merci.